vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en cette 7e année pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors en ces temps moroses, ces temps où le peuple français se pose tellement de questions et où tout était un peu grisâtre, eh bien j'ai eu envie de vous donner un peu de baume au cœur. Nous allons parler du rire. Et pour vous aider, pour que vous y voyez un peu plus clair dans l'histoire du rire dans l'humanité, j'ai avec moi l'insigne honneur d'avoir un spécialiste du rire en France, Guy Cabaretti, bonjour.
Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous.
Et pour vous éclairer, nous avons aussi notre chroniqueuse et éditrice, l'immense hypnothérapeute, Irène Cazenave, bonjour Irène.
Bonjour à tout le monde.
Vous savez que c'est une émission interactive, vous pouvez appeler le numéro de la radio et nous ferons une joie pendant toute l'émission de vous appeler. Donc appelez vraiment Guy Cabaretti qui écrit La Voix du Rire depuis quelques mois. Et si le rire était le propre de l'âme, est avec nous. Donc appelez-nous et on se fera une joie de vous appeler. Eh bien on va commencer avant de passer une page musicale avec vous, Guy Cabaretti.
Oui.
Vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Dynamique Radio?
Je veux bien. Comment me présenter?
C'est jamais simple,
surtout la première fois et quand les gens ne vous voient pas. Disons que pourquoi j'écris ce livre sur le rire, c'est que j'ai été élevé là-dedans. Mes parents m'emmenaient dans les caveaux de chansonniers, à la Lune Rousse, au caveau de la République. Quand j'avais terminé mon doctorat de droit, j'ai auditionné au caveau de la République. Ils me prenaient et puis lâchement, j'ai fui parce que je me suis dit, c'est bête, j'ai fait 8 ans de droit. Ben, je vais commencer peut-être par être avocat et après, je reviendrai à ça, ce que j'ai fait.
D'autant plus qu'en France, on met les gens dans des cases. Donc,
c'était
peut-être mal vu d'être à la fois avocat et rigolo.
Absolument.
Alors, chers amis auditeurs, Guy est dans une émission de coaching développement personnel parce qu'il a écrit un livre de bien-être et développement personnel, La Voix du Rire et si le rire était le propre de l'âme. Irène, quand vous avez lu ce titre déjà, vous avez pensé à quoi?
Alors, j'ai pensé, comme c'est la voix, et il faut le dire aussi aux auditeurs, V-O-I-E, donc le chemin.
Absolument.
Il y a vraiment, dans cette société où on est complètement perdu à l'heure actuelle, où on a tous plus ou moins la sensation qu'il manque quelque chose, là, il y a une réponse qui arrive, la voix, le chemin du rire, qui peut être une réponse à la fois spirituelle et puis aussi organique, profondément humaine.
Absolument.
Du cabaret.
Alors, spirituel, c'est évident. Il y a le mot âme dans mon titre, dans mon sous-titre, c'est évident. C'est un chemin spirituel. Le rire, ça découle. Il y a plusieurs sortes de rire, on en parlera sans doute. Mais il y a un rire qui est né du comique, c'est-à-dire c'est l'observation de la raideur. Et qu'est-ce qui observe la raideur? C'est la conscience, c'est le mental qui rit de la rigidité, rigidité physique, rigidité intellectuelle, rigidité passionnelle, comme vous voulez. Et il y a un autre rire qui découle de là, c'est le rire de l'âme, qui est le rire de la conscience, de la joie de vivre, de la joie d'exister.
C'est d'ailleurs le sous-texte de votre livre, Guy Cabaretti, pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux, je les en remercie. Et si le rire était le rire, le propre de l'âme? Alors évidemment, chacun pense à la phrase de Rabelais, le grand Rabelais au 16e qui disait « Le rire est le propre de l'homme
».
Alors vous, c'est toute la nuance, et d'ailleurs il y a pas mal de chapitres là-dessus dans le livre,
Pour
vous, Guy Cabaretti, c'est le propre de l'âme. Alors expliquez à nos auditeurs de Vivons Cotier pourquoi c'est le propre de l'âme,
Parce que le rire de l'homme, si je puis me permettre, c'est le rire, pour moi, c'est le rire de la personnalité non éveillée, diraient les bouddhistes, c'est-à-dire c'est le rire de la personnalité qui rit d'un comique, qui est provoqué, etc. Le rire de l'âme, c'est le rire de la conscience. C'est le rire de la personne qui, au fil de son évolution spirituelle, a senti qu'elle était, comme on dit en sanskrit, Satchitananda, existence, conscience, béatitude. C'est-à-dire, c'est un rire, j'allais dire un rire sans cause. C'est le rire d'exister. On existe, on est, nous sommes la conscience. La conscience unique qui va se démultiplier en conscience individualisée que sont les âmes, et quand vous arrivez à percevoir que vous êtes une âme qui fait partie de l'unique, et là vous riez vraiment d'un rire qui englobe tout, vous riez sans raison, vous riez de cette joie d'être.
on va rester là-dessus, on va passer une petite page musicale, oui. Et je pense qu'Irène et moi et les auditeurs, on va avoir beaucoup de questions à vous poser sur ça, cette histoire du rire sans cause. Déjà, restez avec nous, oui. C'est passionnant, restez sur Dynamic Radio, à tout de suite.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, de tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris-boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit « Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. » Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie, partout il y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi.
L'immense Charles Trenet, que les moins de 20 ans ne connaissent plus du tout, mais qui nous dit qu'il y a de la joie, c'est complètement en phase avec le thème de cette émission d'aujourd'hui qui est sur la voie du rire. Et vous appelez beaucoup, vous êtes passionné, vous avez envie de poser des questions à toute l'équipe. On a un premier Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'émission Pour vivre heureux, vivons coachés, la seule émission 100% écologie relationnelle du PAF. Vous savez que notre invité, c'est Guy Cabaretti.
Oui.
Alors, qu'avez-vous envie de poser comme question à Guy?
Tout d'abord, avant de poser une question, je voulais le remercier pour cet ouvrage que j'ai adoré, que j'ai dévoré.
C'est gentil.
Et qui m'a vraiment beaucoup apporté.
Bon, c'est une fan qui vous appelle.
Oui, c'est bien, ça facilite. Hein, c'est bien.
Ouais, mais enfin, quand même.
Non, c'est un très joli livre, on est d'accord avec vous, Aléa. On est en phase avec vous. Maintenant, voilà, rentrons dans le fond. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus? Quel passage vous a parlé?
Écoutez, je peux dire que tout m'a parlé. J'ai beaucoup aimé la partie autobiographique, là où M. Cabaretti se met en scène et raconte sa vie. Et justement, c'est à propos de ça que je voulais poser une question.
Allez-y.
Parce que je voulais savoir comment Guy Cabaretti vit, j'allais dire, la voie du rire au quotidien. Comment ça se manifeste dans sa vie?
Guy Cabaretti.
Bon, alors, la question est complexe parce qu'il y a plusieurs causes de joie, il y a plusieurs causes à mon rire. On va partir du plan physique, si vous voulez, du plus facile, je dirais presque d'une technique. Déjà, on est dans une société qui est complètement triste. La première chose à faire, peut-être, c'est de commencer le matin à se prendre une dose de rire, à écouter des chansons comiques, etc., etc., et couper ou alléger toutes les réponses négatives, tout ce qui nous est déversé de radio, etc. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que, je rappelle à nos auditeurs, certains ont dû lire ce livre qui a fait un tabac, c'était Norman Cousins qui s'était guéri d'une maladie incurable. La médecine lui disait, vous avez une chance sur 500 d'en guérir, et il s'est dit, puisque mes émotions négatives ont pu développer ou créer cette maladie, je vais essayer, avec des émotions positives, eh bien, de revenir à la santé. Et contre tous les avis médicaux, il s'est fait projeter pendant, dans son hôpital pendant des mois 2 heures de films comiques par jour.
C'est-à-dire que vous voulez dire qu'évidemment, le rire est roboratif, le rire soigne.
Le rire soigne. Donc si le rire soigne, il est également, il développe le système immunitaire, c'est pas la peine d'aller jusqu'à tomber malade, on peut peut-être éviter de le faire. Et, et le rire est vraiment quelque chose qui est merveilleux. C'est une énergie, c'est tellement d'autres choses. Mais enfin, ça, c'était sur l'aspect physique.
Alors, Irène, peut-être, hypnothérapeute, quand il vous dit que le rire soigne, ça vous fait penser à quoi quand vous avez, vous, des patients qui viennent vous voir?
C'est que justement, c'est de retrouver cette joie de vivre, retrouver ce rire qui est parfois complètement empêché. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on travaille sur la respiration, on se rend compte que le rire et les larmes, c'est à peu près la même respiration et qu'il y a un exercice très intéressant qui est de passer de l'un à l'autre avec la même base de respiration, mais du coup de...
Deux faces d'une même pièce.
C'est les deux faces d'une même pièce, exactement. Donc si on peut pleurer, on peut rire. Choisir de rire, donc choisir ce chemin du rire, ça amène justement vers cette guérison, vers
c'est
ce
d'ailleurs
mieux-être.
Pourquoi Beaumarchais disait c'est forcer de rire de tout pour ne pas être obligé d'en pleurer.
C'est exactement ça, et puis c'est aussi la politesse du désespoir.
Ah, très belle phrase de Kierkegaard, le rire est la politesse du désespoir, c'est-à-dire qu'effectivement on peut penser que les gens désespérés sont des gens qui vont se mettre à rire et à voir la vie en rire au lieu de la voir en rose, mais ils la voient aussi en rose pour ne pas c'est-à-dire submerger les autres de leur désespoir. Comment ça vous parle tout ce qu'on est en train de dire, Léa ?
Écoutez, ça me parle beaucoup parce que ça me réconforte en ce sens où je me rends compte, mais j'avais déjà vu dans le livre de M. Cabaretti, qu'on est quelque part responsable de sa joie de vivre et que même peut-être quand on a des malheurs et des chagrins, on peut par soi-même trouver le chemin et la voie du rire.
Qu'en pensez-vous, Gay Cabaretti ?
Oui, mais je suis tout à fait d'accord. On se prend en main, on crée son destin, on a une page blanche et on inscrit ce qu'on veut. Alors, autre chose aussi que, par rapport à votre première question, de comment je vis tous les jours. Là, je vous ai parlé de cette technique, ce rodage, comme si on faisait des exercices, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est de s'interroger, on est dans une société qui crée la peur.
C'est le surtout les médias d'ailleurs.
Les médias, c'est la façon de dominer. Himmler, le ministre de la propagande d'Hitler, disait le meilleur gouvernement, c'est la terreur. Hein, on est bien d'accord. Hein.
Ouais. Bon. Bonne manière de manipuler les masses.
Absolument. Donc, la peur. Mais quelle est la peur fondamentale ?
La peur de mourir.
Chacun. Là, vous l'avez dit, Christophe, c'est la peur de mourir. C'est la peur de mourir, la peur de ne plus exister. Et si je peux rire autant, et sans me forcer, je vous assure, c'est que j'ai la chance de ne plus être centré sur mon corps périssable, parce que je suis né, je vais mourir, mais il y a quelque chose en moi qui ne meurt pas. J'existais avant de naître, et j'existerai après. C'est ma conscience, appelez ça mon âme individuelle, si vous voulez. Et donc je suis centré sur mon immortalité. Et je peux vous dire que ça change tout, car je vis l'instant en ne m'inquiétant pas du futur, je ne m'inquiète pas de la mort.
Irène, ça veut dire quoi être centré sur son immortalité quand on est hypnothérapeute ?
Pour moi, j'entends être centré sur le présent. Le présent, il est là, il est présent.
Au sens de Eckhart Tolle,
vivre le moment présent, ouais. C'est être dans une forme d'éternité. On existe au présent.
Oui, oui, l'instant présent, c'est l'éternité.
C'est ça. Écoutez, on va rester là-dessus un petit moment pour passer une page musicale. On va continuer à effeuiller, chers amis auditeurs, le livre de Guy Cabaretti qui est passionnant. Hein, aux éditions, Guy Cabaretti.
Symbiose.
Et continuez à appeler parce que je pense que ça vous intéresse énormément, chers amis auditeurs. Léa, on va vous remercier.
Merci beaucoup.
Vous avez été formidable. Likez la page pour Vivons Revivons Coachés sur Facebook, d'accord ? Et on vous réinvitera, d'accord ? Au revoir.
D'accord, merci. Au revoir.
À bientôt, Léa. Merci. On vous embrasse. On vous embrasse. Au revoir.
Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense, au début de sa vie, que ce sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Aussitôt que l'on rêve, c'est déjà qu'on est deux. Aussitôt qu'on en crève, c'est qu'on est amoureux. C'est déjà que l'on pense, avec mélancolie, que ce sera bientôt, bientôt, bientôt fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie.
Le grand Serge Lama, qu'on adore ici dans Vivons Coaché, qui nous chante « Je t'aime à la folie, la vie ». Nous, on aime la folie, la vie en rire. Vous appelez beaucoup, hein, vous êtes passionné par ce thème. On a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Pour vivre heureux, Vivons Coaché. Vous savez que notre invité est Monsieur Guy Cabaretti pour son livre « La voix du rire ». Qu'aimeriez-vous lui poser comme question, Anne ?
Alors, avant de poser une question, me permettez-vous de faire une, de dire une petite appréciation ?
Oui, alors avec joie.
Globale.
Allez-y. Allez-y.
Voilà. Alors, j'ai eu énormément de plaisir à lire ce livre, que je trouve spirituel dans les deux sens du terme.
Oui.
Spirituel parce qu'il est bien écrit, joyeux, avec beaucoup d'humour, et spirituel parce qu'il est de très haut vol et on touche à la philosophie, à la métaphysique, à l'éthique. Enfin, c'est une manière de vivre, une manière d'appréhender le monde extérieur et ça fait du bien à l'heure actuelle.
Surtout dans cette période, comme je le disais en introduction,
c'est
Anne,
mon
n'est-ce
but,
pas
hein, c'est mon but
aussi morose qu'elle est. Et en
absolument,
même temps, Anne, c'est absolument aussi un livre qui donne une voie de développement personnel, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qui donne
et
une
oui,
voie de,
oui,
d'idée aux gens de comment... Allez, enlevez tous
les
ces
rayons,
nuages en ce moment.
Oui,
alors maintenant que vous avez si joliment parlé
regorge,
du livre... Oui, on vous écoute.
Oui.
On vous écoute.
Effectivement, les librairies regorgent de livres concernant le développement personnel.
Oui.
Il suffit d'ouvrir La Voix du Rire et là, vous êtes vraiment joyeux.
Alors maintenant, que, ailleurs, après ce panégyrique et cette...
Là,
cette
je rougis, voilà. Ça se voit pas,
alors,
ça se voit pas à la
qu'est-ce
radio,
que vous avez envie de lui poser comme question maintenant, Anne ?
Alors, une question que je trouve fondamentale parce que Guy Cabaretti associe le rire à la liberté.
Oui.
Et ça, c'est fondamental à l'heure actuelle. Alors, on dit souvent qu'aujourd'hui, Coluche ne pourrait pas, ou des proches ne pourraient pas dire ce qu'ils disaient il y a quelques années. Que pense Guy Cabaretti sur l'absence de liberté relative avec des groupuscules, avec des minorités qui nous imposent des lois et qui sont loin de l'autodérision
C'est
et
une
rire.
Excellente question. Guy Cabaretti, que pensez-vous de ça ?
On est bien d'accord, Anne. La France, traditionnellement, c'était le pays des baladins, des chansonniers, des caveaux au XIXe siècle. Je pense aux chats noirs, mais avant, vous avez les mazarinades sur le Pont-Neuf, etc. On a une tradition d'insolence en France. C'est-à-dire qu'on se moque du pouvoir, parce que le pouvoir est toujours malsain. Le pouvoir tend à à étouffer l'individu. Et le rire, justement, le rire, c'est une explosion de liberté. C'est pour ça que tous les dictateurs sont opposés au rire. Il n'y a pas un dictateur qui accepte qu'on rit de lui. Alors, bien sûr, on a des pays épouvantables comme la Corée du Nord, la Chine, etc. Mais là, ce qui me désole, mais profondément, c'est qu'en France, on arrive, par d'autres voies, à faire taire le rire. Effectivement, des proches ne pourraient pas dire « on m'a dit qu'il y a un juif dans la salle ». On peut plus.
Alors, Guy, je trouve ça très intéressant, votre révolte, hein, et Irène Cazenave aussi. Après, je mettrai un bémol. Le côté « c'était mieux avant », je pense encore qu'il y a encore quelques-uns qui s'autorisent au sens étymologique du terme.
Oui, mais vous êtes d'accord.
Il y en a nettement moins. Mais quand même, revenons à Philippe Cavrière, que je conseille à tous les auditeurs d'écouter tous les matins à 7h50 sur RTL, parce qu'il est insolent. Revenons à 8h35 sur Europe 1, à quelqu'un comme Gaspard Proust. Il est dans la veine de... Il est vraiment dans la veine de des proches. Revenons à 3-4 comme ça. Mais vous avez raison, et Anne a raison aussi. Qu'en pensez-vous, Irène Cazenave? On a l'impression que plus les années passent, plus les interdits et la société devient de plus en plus répressive au niveau du rire.
Alors, pour moi, il y a un double mouvement, à la fois de répression et à la fois un mouvement qui est positif de plus discriminer mais il y a un chemin, il y a une voie pour le coup. On peut très bien prendre du recul parce que rire, regarder les choses telles qu'elles sont, pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, c'est une vraie nécessité.
C'est une nécessité.
C'est une vraie nécessité et ça peut tout à fait se faire en respectant chacun, en mettant tout le monde, je dis pas à la même auteur, mais en tout cas en étant dans le respect de chacun.
Ce qui défrait la chronique ces derniers temps depuis plusieurs mois, c'est même pas à la télé, à la radio, c'est toujours l'humour de Charlie Hebdo. C'est qu'on dit toujours Charlie Hebdo va trop loin, certaines unes de Charlie Hebdo sont scandaleuses, mais moi je dis toujours, mais c'est extraordinaire qu'il continue, non ? Qu'en pensez-vous, Guy Cabaretti ? On aime ou on n'aime pas, mais c'est la suprême liberté de notre pays que je mettrai toujours bien au-dessus des ayatollahs ou de tous ces gens-là, Guy Cabaretti.
Oui, mais le problème, c'est le problème de l'identification. L'ego s'identifie comme étant seul au monde, opposé à tout le monde, etc. Donc il ne veut pas qu'on rie de lui. L'ego ne veut pas qu'on se moque de lui.
Et justement, c'est la fierté mal placée, quelque part.
Et le rire fait sortir de l'ego. Quand vous explosez de rire, vous n'êtes plus dans le mental. Vous ne pouvez pas penser en riant. Vous sortez de votre petit moi et vous allez ailleurs. Vous voyez ? Et donc, le problème actuel, c'est que les petits égos, qui déjà étaient un obstacle au rire, c'est toute la deuxième partie de mon rire, s'agglutinent dans un groupe, ils vont s'intituler je ne sais quoi, tous les gens qui ont mal au bras droit, faut pas rire contre les gens qui ont mal au bras droit, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on veut empêcher les gens de rire, alors que le rire n'est pas du tout malsain. Il y a un rire qui est de communication, qui est un rire de complicité. Le rire, c'est aussi la façon pudique de dire aux gens qu'on les aime. On se moque, je crois que c'est Laurent Gérard qui dit « je ne peux imiter que des gens que j'aime bien ».
Et c'est complètement ça. Et du coup, d'exclure certaines minorités, enfin, du coup, ne pas rire de certains sujets exclut de facto certaines minorités.
Mais oui.
Oui, alors, la vraie question, c'est qu'effectivement, on a perdu Anne. Anne, vous êtes toujours avec nous ?
Non, je suis toujours
alors,
là.
Alors, comment vous recevez tout ce qui est dit par Guy Cabaretti et nous ?
Ah, c'est fort intéressant. Et tout à l'heure, vous parliez de Philippe Cavrivière, que j'écoute religieusement.
Moi, je l'adore. Moi, je l'adore, Philippe. Je l'adore.
Tous les matins. Et en plus, ce qu'il y a de formidable, c'est que l'invité dont il se moque est toujours présent sur le plateau. Et ça, c'est bien.
Il en reste quelques-uns, vous voyez, Anne.
Et voilà, Proust,
alors moi je vous conseille maintenant le mardi, le mercredi et jeudi, on fait de la pub pour d'autres stations, mais de mettre Proust à 35, qui n'a pas le même esprit que Philippe, mais qui est bien aussi. Ce matin, ce qu'il a face à Marine Le Pen, il était exceptionnel. Oui. Et voilà, comme disait Guy, la première heure de la journée, on égaye la première heure de la journée avec Philippe Cavrière et Gaspard Proust. On va vous remercier d'avoir participé à l'émission, Anne. Vous pourrez la réécouter en podcast.
C'est un plaisir.
On vous embrasse, Guy
merci,
vous embrasse aussi.
Merci Anne de votre intervention. Merci beaucoup.
Et continuez à nous
appeler. Merci à cette jolie émission que je découvre et à laquelle je serai désormais fidèle.
Oh, c'est adorable. Tous les samedis à 12h. On vous embrasse.
D'accord.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
I am flying like a bird.
Rod Stewart qui nous dit « I am sailing ». Je prends souvent cette métaphore de la vie comme cette traversée d'un océan et de la mer où on est quelque part entre le port et malheureusement l'arrivée, ou heureusement d'ailleurs, peu importe. Vous appelez beaucoup, hein, vous êtes passionné par ce thème. Ô combien d'actualité, rire, rire dans la vie, la voix du rire que nous offre Guy Cabaretti. Et si le rire était le propre de l'âme, on a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour vivre heureux, vivons coaché. Qu'avez-vous envie de poser comme question à Guy Cabaretti, notre invité central?
Bonjour Eric. Ah,
bonjour. D'abord, avant de poser ma question, j'aimerais féliciter l'auteur.
Oui.
Pour son texte que j'ai trouvé
bien écrit,
clair, construit, documenté, drôle. Et puis donc c'est un angle aussi d'approche
Vous avez détesté le livre, Eric. Hein, vous avez détesté.
Non, j'ai adoré. Vraiment,
ah bon,
j'ai adoré.
J'ai cru entendre l'inverse, moi. Je fais du Zemmour.
Alors, vous êtes sourd.
Non, on a compris, mais vous inquiétez pas. On est, n'est-ce pas, Irène?
Nous aussi, parce que ce livre, il est complètement transverse, en fait.
On est unanime. Ouais. On est unanime. Alors maintenant, une petite question sur un passage.
J'ai deux questions.
Oui, allez-y.
Moi, si j'ai bien compris, le rire est à la fois le moyen par lequel on atteint le rire ultime, à savoir l'éveil.
Oui.
Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut entendre le propos de l'auteur?
Oui, là je vous suis tout à fait, oui.
La deuxième question, est-ce qu'il existe des ashrams qui cultivent le rire, ou plutôt des maîtres qui pourraient nous amener à l'éveil par cette voie, ou bien le rire est-il un chemin solitaire?
Alors, avant que Guy vous réponde, c'est extraordinaire, elle est très très bonne, elle est excellente votre question, Eric, parce qu'à un moment donné, Guy Cabaretti fait référence à Sri Aurobindo, avec mère, évidemment, fait Auroville, qui existe toujours, chers amis auditeurs, hein, à côté de Pondichéry. C'est vrai que vous référez à cela, Guy Cabaretti.
Ah oui,
et moi, j'étais en troisième cycle au groupe de recherche sur l'éducation avec Krishna Murthy, avec le seul enseignant de l'université française à avoir intégré Krishna Murthy à l'éducation en sociologie. C'est incroyable. Oui. Et donc, maintenant, répondez à la question d'Eric, qui est passionnante. Guy Cabaret.
Oui, alors est-ce qu'il y a des voix? Est-ce que c'est une voix solitaire? Non, le rire se partage, c'est ce que dit le philosophe Henri Bergson. Le rire a besoin d'un écho. Et rire tout seul, alors certains disent c'est malsain, c'est les fous qui rient tout seul. Non, mais moi je ris tout seul, je vous le dis tout de suite. Hein, je ris tout seul, je me marre sans cause ou avec une cause. Je vais regarder un objet que j'aime. Eh bien, je me pénètre de cet objet et je commence à rire. Et il n'y a pas de comique, c'est pas drôle. C'est une communion. Alors, est-ce que la beauté, bon, c'est une forme d'amour. L'amour, c'est le frère jumeau du rire, comme je l'ai écrit dans mon livre. Donc, tout se tient. Pour répondre à votre question, il y a des exercices de yoga du rire, il y a des clubs de rire. Ah. Voilà, je cherchais le mot, il y a des clubs D'accord. de rire, etc. Mais là, on est dans la rigolothérapie, entre guillemets, ce qui est très, très bien. Ce qui est très, très bien. Aucune critique là-dessus. Mais là, quand vous avez commencé en disant « Est-ce que le rire n'est pas la voie suprême pour avoir l'éveil ?» Je vous disais « Oui ». Et là, on n'est plus dans le même domaine. Alors, on va commencer, si vous voulez, par l'humour. L'humour, qu'est-ce que c'est ? Sa fonction supérieure, c'est un détachement. Comme si vous étiez comme un aigle qui survole une plaine, vous avez une vision panoramique, vous êtes témoin et vous n'êtes pas pris dans les circonstances. Et vous avez une sorte de détachement. Ce détachement, c'est l'attitude de témoin que prônent les orientalistes et ceux qui apprennent la méditation. Se détacher, regarder le mental, faire taire, etc. Et le rire, c'est le témoin qui rit. C'est la conscience qui rit, en plus.
Irène, quand il parle de détachement, en tant qu'hypnothérapeute, vous voyez ça comment, vous, cette idée de détachement?
Il y a plusieurs choses. Il y a la distance qu'on peut prendre avec un problème, un détachement. Oui. Et pour moi, le rire, il est extrêmement utile à ça. Parce que si on arrive à rire d'une situation, se regarder faire et se dire « mais je suis ridicule à faire ça » sur son problème, le problème, il est déjà quasiment résolu en réalité. Quand on a la capacité de prendre cette distance.
Oui, tout à fait.
Et alors après, vous avez parlé de Bergson. C'est vraiment le chef-d'œuvre, hein, le rire de Bergson. Oui. À un moment donné, Bergson dit le rire, c'est de la mécanique plaquée sur le réel. C'est-à-dire que c'est une manière de démécaniser le réel, le rire. C'est-à-dire même quand on souffre, même quand on a une difficulté, si on arrive encore à rire ou si on arrive à nous voir rire, c'est la thérapie, en fait.
Oui, parce que ce que dit Bergson, si j'ai bien compris sa pensée, c'est que le comique, parce que son rire, c'est surtout un livre sur le comique, c'est provient de la raideur ou d'une... Vous faites quitter les gens, ils sont sur des rails et touf, vous faites quelque chose qui est imprévu et hop, ils sont saisis, etc. Et effectivement, Bergson dit, pour rire, il ne faut pas être touché dans sa sensibilité. Si quelqu'un chute devant moi, s'il se fait mal, je ris pas. En revanche, si c'est un mec qui a un chapeau de forme, qui se casse la gueule sur une même merde de chien, j'ai qu'il se pose de rire. Parce que c'est comique, ça sort de... Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ça vous parle comment, Eric, tout ce que nous dit Guy Cabaretti? Allez-y, on vous écoute. Allez-y. On sent votre réaction émotionnelle.
Non, là, c'est pas émotionnel, c'est effectivement, c'est du vécu. Donc, non.
Bon, non, en tout cas, ça vous fait beaucoup rire.
En tout cas, son ton. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé.
Bon, alors, à un moment donné, Guy Cabaretti, vous évoquez la vie dans l'au-delà. On voit très bien chez vous qu'après, ça va aller de ce qui se passe après. Oui. Et vous dites que là-haut, c'est très joyeux.
Oui.
Qu'en savez-vous?
Eh ben parce que j'ai eu la chance
d'en revenir. C'est un peu le début de votre livre pour les auditeurs.
Oui,
vous parlez autobiographiquement de quand vous étiez là-haut.
Absolument.
Quand vous avez décidé de revenir.
Alors pour vous répondre, bon, il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des gens qui sont hypersensibles. On les appelle médiums souvent. Chacun a sa forme de médiumnité ou d'hypersensibilité. Et il y a aussi, si vous n'êtes pas médium, la faculté d'approcher des réalités invisibles avec ce qu'on appelle des EMI, expériences de mort imminente. J'en ai fait une à l'âge de 6 ans, donc je sais de quoi je parle. Je me suis vu, je me noyais, et puis je coulais, et j'étais joyeux, mais c'est invraisemblable, et je revoyais ce défilé toute ma vie. Alors, quand je suis ressorti de l'eau, quand une main m'a sorti de l'eau, et de l'eau de là sans doute, j'ai explosé de rire, ça ne faisait pas rire du tout mes parents. Mais ce qui m'a permis de comprendre plus tard que c'est la conscience qui crée le temps. Parce que vous avez des émis sur des gens qui sont en coma, dépassés, et qui racontent ce qui se passe. Et ils voient effectivement, c'est le premier stade, voir se dérouler toute leur vie passée, dans les moindres détails. Comment voulez-vous que le temps soit aussi rétréci si ce n'est pas un produit de la conscience qui peut l'allonger ou le rétrécir. C'est le phénomène d'Einstein, de la relativité du temps. Vous mettez la main sur une plaque chauffante, si c'est 2 secondes, ça a l'impression que ça dure 1 heure. Maintenant, vous êtes assis sur un banc avec une jolie femme pendant 1 heure, vous croyez que ça a duré 5 minutes.
Alors ça, c'est toute la distinction chez Bergson de la durée et du temps. C'est-à-dire que pour lui, la durée est effectivement quelque chose qu'on ne ressent pas comme quelque chose de long. Non, mais c'est vraiment, relisez Bergson, un thème bergsonien, la différence entre le temps et la durée. La durée est ressentie comme quasiment pas quand on passe un bon moment, tandis qu'on perd son temps ou on gagne du temps par rapport au fait. C'est vraiment un terme à la Bergson. Mais en tout cas, c'est très intéressant. On va vous remercier, Eric.
Merci d'avoir participé
à l'émission.
Merci beaucoup.
Bonne journée et à très bientôt. Au revoir, Eric.
Merci.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cover. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut dans mon jardin d'hiver.
Le grand Henri Salvador. Pourquoi j'ai envie qu'on mette Henri Salvador? Parce que si on a un, n'est-ce pas, Irène Cazena, qui reste avec nous pour son rire.
Qui est très communicatif.
C'était un immense rire, Henri Salvador, un rire incroyable. Et on m'a dit que le plus grand joueur du monde qui est français, on a cette chance de football, Monsieur Kylian Mbappé en personne, serait un descendant de la famille d'Henri Salvador. Vous appelez beaucoup sur le rire. Nous sommes toujours avec Guy Cabaretti, la voix du rire, et on a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans l'émission Pour vivre heureux, vivons coaché. Vous savez que notre invité aujourd'hui, c'est Guy Cabaretti qui a écrit La Voix du Rire. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Guy Cabaretti?
Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Guy Cabaretti pour son livre. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il est vrai qu'il y a une urgence à retrouver son rire. Ça, c'était déjà une première réflexion par rapport à son livre.
Oui.
Et la question que je souhaitais lui poser aujourd'hui, c'est: est-ce que le rire suppose la connaissance de soi? Est-ce que ne suppose-t-il pas un minimum de recherche intérieure? Voilà.
Alors, Guy Cabaretti, oui. Très jolie question.
Très très belle question. Ouais, ouais. J'ai envie de dire, oui, ça suppose la connaissance de soi pour un certain rire, mais ça va faire peur aux gens si je dis qu'il faut d'abord se connaître pour pouvoir rire. Je crois que quand j'ai écrit « La voix du rire », justement, la voix V-O-I-E, c'est que ça mène à la connaissance de soi. Le rire est connaissance, mais... et puis alors... connaissance de soi. Je vais faire une petite remarque. On entend toujours Socrate dit « connais-toi toi-même ». Bon, très bien. Est-ce que c'est pas une boutade ? Est-ce que c'est pas de l'humour de la part de Socrate ? Est-ce qu'on peut vraiment se connaître ? Ma question, c'est est-ce que nous ne sommes pas une conscience en perpétuelle évolution ? Et si un jour...
On va lui demander, on a Socrate au téléphone.
Ah bah, ouais, demander.
C'est pour courir un peu. Allô Socrate.
Parce que,
si, vous plaisantiez.
Si je me connais entièrement, si je me connais, mais je vais m'emmerder pour le restant de l'éternité.
Vous voulez dire un peu que, comme dit le poète, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard.
Mais non, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est, on est en perpétuel progrès, en perpétuelle
c'est
évolution.
C'est ce que dit Aragon. Ouais.
Voilà. Et donc, la connaissance, elle est évolutive. Donc, on n'a pas un moment une connaissance et puis c'est fini, on se les roule.
Donc, en fait, par rapport à ce que nous dit Juliette, en fait, il n'y a pas trop de corrélation entre le connais-toi toi-même et le rire.
Non,
hein,
voilà.
Mais les enfants rient aussi, beaucoup, plus que les adultes d'ailleurs.
Mais ça
plus longtemps.
Je réponds à Juliette qu'effectivement, ouais. le rire permet d'aboutir à une connaissance de soi. Quand on passe de ce premier rire qui est basé sur la raideur, je vous en parle puisque vous avez lu le livre, qui passe sur la raideur, et ce second rire qui est le rire de cette connaissance de soi, qui est existence, conscience, béatitude, on est ce rire.
Irène Cazenave, quand il parle de cette relation entre rire et connaissance, ça vous fait penser à quoi ?
Moi, ça me fait penser qu'on se connaît surtout au travers des interactions qu'on a avec le monde, au travers des interactions qu'on a avec les autres,
relations, ouais.
À travers les relations. Se connaître soi, si on est isolé du monde, ça n'a pas grand intérêt non plus. Et le chemin du rire, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. À un moment, dans votre livre, vous parlez du rire qui crée la connivence et l'amour.
Oui, oui.
Et qui crée donc ce lien avec l'autre, oui. Et cette connaissance de soi et de l'autre qu'on peut avoir à travers le rire.
Oui, absolument, absolument. Oui, oui.
Et à un moment donné, alors, on va parler un petit peu de quelque chose aussi qui est en phase, qui est la suite. Hein. Dans un passage de livre, vous parlez du rire et du sexe.
Oui.
Et
oui.
Vous dites que le rire est l'octave supérieure du sexe. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que ça veut dire. Pourquoi le rire est-il l'octave supérieure du sexe ?
Alors, faudrait que je remette ça dans le contexte. Ma proposition, c'est de dire que il y a une unité à laquelle nous amène le tout, que, comme le dit la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que le sexe est l'alpha, le début de la joie, c'est une forme de joie, et la joie ultime, on appelle ça en Orient le samadhi, l'illumination, c'est le septième chakra qui s'ouvre, etc. Et que on ne peut pas rejeter les échelons de l'échelle. Toute l'échelle, c'est la joie. Et elle se manifeste aussi bien sur le plan physique. Et je dis le sexe, l'orgasme, c'est l'éclat de rire du corps, c'est l'éclat de rire des instincts. Et le rire, c'est l'éclat de rire de la conscience. Et on ne peut pas séparer l'esprit et la matière. Le sexe, les religions nous ont fait un mal fou. Le sexe, c'est mal, etc. Alors que je viens de dire, mais alors c'est drôle. Alors le sexe, c'est tellement dégoûtant qu'il faut le garder uniquement pour son conjoint. Non, mais c'est hallucinant. Donc, je veux dire, dans la sexualité, on va aboutir à une communion avec l'autre. Et dans l'illumination, c'est un acte d'amour avec l'univers. Et donc, je dis que c'est le rire est l'octave de la sexualité parce qu'on est monté. Le rire est monté, mais c'est toujours cette joie qui est explosive. Le rire, c'est une explosion de joie. c'est une explosion de joie.
Et d'ailleurs, on rit de moins en moins. Il a été étudié que le peuple français dans les années 50 adultes riait à peu près 6-7 minutes par jour. On aurait plus que 2-3 minutes par jour. C'est vraiment une peau de chagrin, le rire. Irène Cazenave, la relation qu'il fait entre le rire et la sexualité, ça vous évoque quoi?
Je trouve ça très intéressant d'intégrer vraiment l'être humain dans sa globalité. Dans sa globalité et de remettre aussi la sexualité au cœur, qu'il n'y ait pas un chemin ou un passage qui ne soit pas exploré. Et on est encore une fois à la rencontre de l'autre. La sexualité, c'est la connaissance de soi avec l'autre aussi. On est dans ce même... j'ai envie de dire, on est dans cette même spirale à différents niveaux.
Oui.
Oui, c'est vrai. Alors après, vous allez plus loin même. Donc en fait, il y a cette idée de rire énergie, il y a cette idée de rire et ricanement, pour moi, qui est une définition. Et évidemment, vous citez ce chant fort qui est très connu, la journée la plus perdue de tout être humain,
c'est celle où on a Paris,
celle où on a Paris, elle est très
bien
connue. Et évidemment, même nous, dans l'émission, nous rions. Après, il y a la question, c'était un peu sous-entendu par l'une des auditrices, qui est un peu dans l'air du temps en ce moment, puisque Michel Denisot vient de sortir un livre là-dessus, dont le titre est « On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule », vanne qu'ils avaient faite avec Coluche lors d'un soir de beuverie au Festival de Cannes. Mais c'est quand même une vraie question, c'est « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» C'est une belle question, finalement. Est-ce qu'on peut rire de tout, Guy Cabaretti?
Moi, je pense qu'à partir du moment où on atteint... Non, mais on l'atteint individuellement, c'est ça le problème. Où on atteint un niveau où on se rend compte que le divin est partout, que tout est le divin, à ce moment-là, comment ne peut-on ne pas rire de tout?
Il y a des rires diaboliques.
C'est autre chose, ça.
Vous disiez en début d'émission qu'il y a une typologie des rires.
Oui, oui, non, mais...
Il y a les rires cyniques.
Oui, mais c'est pas mon propos. Moi, je prends le rire uniquement dans son sens positif, qui est une explosion de joie. Oui, bien sûr, vous l'avez compris. Bien sûr, vous
l'avez compris. C'est un petit peu pour vous titiller.
Oui, oui, j'ai bien compris.
Ouais. Les méchants sont risibles. Mais peut-être que les méchants se rient parfois de faire du mal. C'est ça qui me fait mal. Si on dit que le rire est le propre de l'homme...
Moi, ce que j'ai envie de rebondir là-dessus, en parlant de notre part d'ombre, à partir du moment où on commence à la regarder, c'est déjà une première étape. J'ai envie de dire, l'étape suivante, c'est de pouvoir en rire.
Oui.
De se dire, bah oui, je suis humain, je suis là, je suis veule. Mais d'arriver à en rire...
Je m'accepte.
Irène, il faut une conscientisation, on est d'accord.
Évidemment.
Alors que les méchants ne sont pas toujours conscients de... la totalité de leurs actes.
Après, moi, je suis pas sûre qu'il y ait des gentils et des méchants. Je pense qu'on est tous potentiellement gentils et méchants.
On oscille tous. Entre une part dark et une part de... Oui, on est tous des oscillateurs.
Plus on a conscience de nos zones d'ombre et plus on peut en rire. Plus on se sent faire partie.
Oui, mais là, je vais aller plus loin. Là, c'est le psychosociologue qui va parler, parce que, chers amis auditeurs, vous devez comprendre quelque chose. Et ça, je vais rien vous apprendre, Irène. Vous êtes thérapeute et une très grande hypnothérapeute. Un des traits des perverses et des pervers narcissiques, c'est que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'humour, voire pas d'humour du tout. C'est très connu, ça, en clinique. Et le psychosociologue que je suis, vous le savez, est formateur depuis plus de 20 ans, on le sait, ça. Un pervers n'a pas d'humour. Une perverse n'a pas d'humour. Irène Cazenave, hypnothérapeute.
Et c'est justement un marqueur.
C'est un
marqueur de quelqu'un qui peut prendre aucun recul sur lui. C'est un marqueur. Ça peut être autant le marqueur d'une grande souffrance, de quelqu'un qui ne peut pas aller regarder à cet endroit-là. Et le marqueur.
Donc tout le monde
aussi
n'a pas d'humour, vous voyez.
Oui,
ça, c'est intéressant. Et
Aurobindo dit bien, je ne peux pas concevoir quelqu'un qui soit évolué et qui n'ait pas d'humour.
Mais à mon avis, le pervers non seulement n'est pas évolué, mais c'est quelqu'un qui est une pourriture humaine.
On est bien d'accord.
Parce qu'il veut la mort de l'autre pour pas mourir lui-même. Donc, je veux dire, quand tu tombes sur une perverse et un pervers, tu joues ta vie. Parce qu'il va te... C'est vraiment le chef-d'œuvre d'Harold Searles, n'est-ce pas, Irène, l'effort pour rendre l'autre fou. C'est qu'il veut ou elle veut te rendre fou ou folle à sa place. À sa place. Donc, ils n'ont pas d'humour. Non. Et d'ailleurs, franchement, chers amis auditeurs, si vous voulez savoir si vous tombez dans les premiers mois sur une perverse ou un pervers, regardez quand vous vous mettez à plaisanter, à rire, qu'on a un immense spécialiste de rire, si l'autre vous fait rire ou pas. parce que s'il vous fait pas rire, s'il n'est pas là-dedans et s'il n'est pas de l'humeur, ça peut être un des stigmates. Irène Cazenave.
Oui, ça peut être un des stigmates. Après, ça peut être aussi un stigmate d'une souffrance.
D'une donc dépression.
Donc, c'est aussi quelque chose à regarder. Et je reviens sur ce que disait Guy Cabaretti sur la connivence qu'il peut y avoir dans le rire. Le rire, c'est un endroit où on va complètement à la rencontre de l'autre aussi. Et de l'autre dans sa globalité. Et pouvoir rire de particularités de l'autre ou de ses propres particularités, c'est aller complètement à la rencontre de l'autre.
Oui, on est dans le jeu. Et le jeu, c'est une pure merveille. Les enfants, les tout jeunes enfants, ils jouent, ils rient. Ils sont dans le jeu, dans le rire gratuit, dans le jeu gratuit. C'est ça qui est important, parce que dans notre société, les gens ne jouent plus, puisqu'ils se mettent des challenges. On encense le premier et tous les autres n'existent plus. C'est terrible, parce qu'après, les gens se comparent. Et quand on se compare, c'est fini. On se tue, on se suicide, parce que vous aurez toujours quelqu'un qui est plus beau que vous, plus riche que vous, en meilleure santé, etc. Qui est devenue notre personnalité, qui est unique, encore une fois, qui est unique. Il n'y a pas deux grains de sable.
Comment ça vous parle, tout ce que nous dit, là, tout ce qu'on se dit autour du plateau, Juliette ?
Bah écoutez, moi, en tout cas, je retiens ce que vous dites à propos des pervers narcissiques, qui est extrêmement inquiétant et que je reconnais, parce que malheureusement, j'ai eu dans ma vie à fréquenter un pervers. Et
il n'avait pas d'humour, Juliette ?
Et n'avait exactement pas d'humour.
Donc vous voyez que c'est pas inquiétant, c'est lucide, n'est-ce pas? C'est lucide et ça aide les gens qui nous écoutent aujourd'hui de se dire, bah tiens, ça leur donne une... Vous savez, il y a une phrase que j'adore de Voltaire, que j'ai mise en exergue d'un de mes 20 livres, c'est « Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres, Juliette. » Vous sentez ce qu'on veut dire? Et on fait ces émissions-là avec mes amis chroniqueurs aussi, qui sont tous des cliniciens de haute voltige, et on a des experts et des invités de haute voltige, justement pour éclairer les humains dans une époque qui veut les parfois l'obscurantisme, vous voyez ?
Absolument.
Et donc c'est pour ça qu'on a ces émissions-là.
C'est un marqueur.
C'est un marqueur. Moi, j'en suis persuadé, parce que, en fait, vous aussi, hein, vous envoyez des filets dans vos cabinets, et souvent, ils vous disent « je suis tombé sur une perverse, un pervers », c'était ça.
Oui. Alors, soit pervers, soit des gens qui sont dans l'hyper-narcissisme, mais en tout cas, des gens qui sont toxiques pour l'autre.
Ah, ça, c'est clair. Oui. Eh bien, écoutez, on va vous remercier, on vous embrasse, oui, Juliette. Merci d'avoir participé à Pour Vivre Heureux, Yvon Cotché.
Merci de votre émission.
Merci, et à très bientôt.
Merci de votre appel.
Likez la page Pour Vivre Heureux, Yvon Cotché sur Facebook et sur Instagram, d'accord ?
Okay. D'accord,
plus de 50 000 likes déjà, d'accord ? Au revoir.
Au revoir, Juliette. Au revoir, merci.
Guy, il nous reste quelques minutes, on va conclure. C'était une très belle émission, vraiment. Si on a envie de conclure avec vous, on pourrait vous dire, dans une période de plus en plus morose quand même, où il y a une espèce de crise, d'entre-crise, même d'entre-là de crise, crise politique, crise économique, crise sociale, crise... Allez, j'en place, c'est les meilleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire avec votre livre à l'humanité pour lui donner une dose d'optimisme pour les semaines et les mois et les années qui viennent?
Une dose d'optimisme, c'est qu'on a tous, là je partage ce que vous disiez, Irène. On a tous la lumière en nous, il y en a qui ne le savent pas, il y en a pour qui c'est voilé, mais il faut avoir totalement confiance. J'aime bien cette image de emploi au chaud en disant les ténèbres n'existent pas, vous êtes dans une pièce sombre, vous ouvrez la fenêtre, vous ouvrez la porte et la lumière rentre. Et il n'y a pas à lutter contre les ténèbres, mais à construire à côté. Construire, ben c'est se construire, c'est aller vers soi, vers l'intérieur, pour comprendre la beauté de la vie. Le rire nous y aide énormément, parce que le rire, c'est le summum de la conscience, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'énergie, ce sont des tas de choses. Et j'aimerais vous lire, si vous le permettez, je voudrais lire pour nos auditeurs, c'est la dernière page de mon livre, je cite
pas
Osho.
Pas toute la dernière page, mais la citation d'Osho.
La citation d'Osho, qui est, il y a 8 lignes. Hein.
Allez-y.
D'accord. Le jour où l'homme oublie de rire, le jour où l'homme oublie de s'amuser, le jour où l'homme oublie de danser, il n'est plus un homme. Il régresse à l'état de sous-homme. La gaieté le rend léger, l'amour le rend léger, le rire lui donne des ailes. Il danse dans la joie, il peut toucher les étoiles les plus lointaines. Il peut connaître les secrets même de l'existence.
C'est magnifique. Qu'en pensez-vous, Irène ?
Mais je trouve que ce livre, il reconnecte à la fois à l'individu qu'on est et à l'individu dans la société. Pour moi, c'est aussi important, et j'aurais aimé revenir là-dessus, justement, sur cette notion de liberté, parce qu'il y a cette liberté individuelle. Et souvent, dans le développement personnel, on s'arrête à ça. On ne parle pas de collectif. Là, moi, j'ai ressenti dans votre livre vraiment cette question du rire un peu plus collectif, parce que le rire, c'est aussi quelque chose qui se partage.
Ah, totalement. Totalement. C'est la joie qui se répand partout. Et si vraiment, nos, comme je le pense et comme beaucoup de mystiques le pensent, nous sommes faits de la joie, eh bien, il n'y a qu'une seule chose, c'est la partager. Et je recite encore au chaud, parce que je l'adore, qui disait le plus lourd fardeau qu'un homme puisse avoir sur les épaules, c'est la félicité qu'on ne peut pas partager.
Et ce qui est intéressant aussi, on finira certainement là-dessus, c'est que toute votre dernière partie, les gens seront heureux de lire les obstacles au rire que vous citez, qui sont nombreux, Guy Cabaretti. Absolument. Tous les obstacles au rire, ils sont assez nombreux.
Ils se résument à deux, hein.
Oui, mais allez-y.
L'ego et l'ego collectif, qui est une amplification de l'ego individuel.
Voilà, et ces deux obstacles au rire-là sont assez terrifiants, parce que dans une époque où la pire engeance qui s'appelle les hommes politiques,
absolument,
sont des gens qui sont continuellement dans l'ego, ils,
absolument,
sont continuellement dans une dimension de cet ordre-là, il est évident que ça, ce ne sont pas des gens qui nous font rire.
Non.
Et c'est un problème parce que c'est ce type de profil-là qui s'occupe du vivre ensemble. Alors heureusement que nous, les gens de l'éducation et de la formation et les gens de la spiritualité,
oui,
le sommes aussi, et de la thérapie,
oui,
parce que ces gens-là, excusez-moi, hein, on a fait une belle émission là-dessus. Merci Guy Cabaretti d'être passé par Dynamique Radio sur Pour Vivre Heureux, pour mon coacher.
Merci de m'avoir invité.
Nous avons vu, chers amis auditeurs, ce livre magnifique qui s'appelle « La voix du rire ». Aux éditions
Symbiose.
Et si le rire était le propre de l'âme, on peut vous dire qu'une seule chose, hein, cette phrase magnifique de Jimi Hendrix, le jour où les êtres humains auront compris qu'il vaut mieux chercher la paix plutôt que la guerre, peut-être que l'humanité connaîtra enfin la paix. Et c'est vrai que l'amour du pouvoir est parfois plus fort que le pouvoir de l'amour, et c'est bien le problème. Qu'en pensez-vous? Merci Irène Cazenave.
Merci beaucoup.
Et bien je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Merci.
Pour vivre heureux, vivons coaché.
Vivre heureux, vivons coaché. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.